Il y a sûrement des férus de football parmi nous. Et je vous demandais juste de vous mettre dans une certaine condition. Pensez France 98 Coupe du Monde. Vous avez tous là le souvenir. Zach, peut-être un peu moins. Tu connais peut-être pas. Non, mais c'est vrai, peut-être un peu moins. Et là, l'après-midi, ce dimanche, vous décidez de regarder ce match-là, notamment avec Zach, qui n'a pas vécu sur France 98, qui ne connaît peut-être pas le résultat, ou même regarder ce match avec Noé. Vous allez le regarder ensemble et vous connaissez le résultat. Vous connaissez la fin. Noé ou Zach ne connaît pas le résultat, donc il est dans une forme de suspense, dans une forme de stress de l'issue du match. Vous connaissez le résultat, donc vous êtes plutôt serein. Et je présume même que dans vos têtes, vous voyez déjà la chanson « I will survivor ». Ah, ça marche. Ouais, c'est ça. La chanson à lui, Survivor, vous voyez Zidane tenir la Coupe du Monde, alors que Zach Noé, lui, il vous pose des questions, mais qui va marquer, qui va faire? Et là, vous avez dans vos têtes, vous savez qu'il y a eu un doublé de Zidane et un troisième but de Manuel Petit. Mais l'autre à côté, il vit l'instant présent. Vous avez la suite. Et vous avez déjà le la, 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 vous attendez la fin. Après, pour ceux qui ne sont pas fouteux, je vais vous prendre l'exemple des voyages en famille. En famille, on est dans la voiture, on a un trajet, et ça ne marche pas. On est sur le trajet, on va voir la famille plus loin, et on a les enfants derrière qui nous posent d'éternelles questions. C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Le trajet lent, c'est quand qu'on arrive? Vous savez une chose, que le trajet va durer 2 heures, et que ça fait à peine 20 minutes que vous êtes sur la route. Et l'enfant a cette impatience. C'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive. Vous savez que vous allez arriver dans 1h30. Il y a plein d'exemples comme ça. Je vais prendre encore l'exemple du film. Vous regardez un film avec vos enfants, petits-enfants ou amis, un film qu'ils n'ont jamais vu. Vous connaissez l'intrigue, vous connaissez les différents protagonistes, les antagonistes entre eux, et cette même question. Vous, en ayant regardé le film, vous avez compris l'idée, le propos que le réalisateur voulait mettre en avant. Vous l'avez compris. Il y a une phrase qui n'est pas de moi, c'est « On ne comprend que comme on a déjà compris. » On ne comprend que comme on a déjà compris. Donc il y a celui, comme il a vu l'histoire, il connaît la fin. Et il y a l'enfant qui regarde ou la personne qui ne regarde pas. Sa compréhension est évolutive. Elle dépend de ce qu'il vit à l'instant. Donc elle peut être, elle va influencer son jugement tout du long. On va découvrir un personnage, Pierre. Je vais vous lire un petit passage dans Jean 14. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, vous avez des mots pour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Voilà là un homme qui ne comprend pas, parce qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut comprendre qu'avec la manière avec laquelle il a déjà compris. Il ne supporte pas la domination romaine. On peut se questionner sur si est-ce qu'il est prêt à subir une autre domination, une autre colonisation. Pierre a vu des révoltes. Il a vu des rebelles, ils sont quand Jésus, c'est le bon cheval sur lequel il faut miser. Ils sentent que Jésus est le meilleur et il est différent de toutes les révolutions qu'il y a eu avant. Mais est-ce qu'il a compris ce que Jésus lui a dit dans ce passage? Est-ce qu'il a compris ce que Jésus lui a dit Est-ce qu'il a compris? Pourtant, on peut penser gros quand on va lire un passage dans Luc. qui dit « Mais celui qui me réunira devant les hommes sera réunié devant les anges de Dieu. » Mais malheureusement, il n'a pas entendu ce qui lui a été dit avant. Pouvait-il entendre ce qui lui a été dit après ? Que votre cœur ne se trouble, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À ce moment-là, dans la tête de Pierre, il n'est pas en train de renier Jésus. Il le suit parce que l'épée qu'il a prise, ça n'a pas servi à trancher l'oreille du soldat romain. Il pense qu'elle servira à un moment ou à un autre. Il est bien prêt. Il est prêt à servir Jésus pour anéantir le gouvernement présent, l'occupant. Donc avec le texte qui s'affiche, on va voir que on peut comprendre la position de Pierre. On peut comprendre sa position, la compréhension qu'il a à ce moment-là. Jésus lui dit, Pierre dit, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu aies nié trois fois de me connaître. » Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé son bourse, son sac et son soulier, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, cela suffit. On se met dans la position de Pierre. Jésus lui a dit de prendre des épées. Donc, dans sa compréhension présente, ça va en découdre. C'est ce qu'il a compris à l'instant. Pierre ne peut comprendre que comme il a déjà compris. Ce qu'il attend est une libération séculière par l'épée. Il est prêt à mourir au combat, mais sûrement pas sur le gibet sur lequel sera Jésus. On reviendra un peu plus tard sur Pierre et on va prendre un autre personnage. Judas. Je vais un peu recontextualiser le temps présent. C'est la Judée occupée par les Romains sous l'oppression. Le peuple juif attend un Messie. Tout un chacun a sa compréhension de la venue messianique, de quel est le Messie, quelle sera son œuvre sur quand il viendra. Donc Judas et Pierre sont des contemporains de cette époque. Comme je disais, chaque juif, à ce moment-là, attendait une délivrance, une restauration par un Messie sauveur. Ils attendaient une forme aussi d'indépendance perdue, indépendance politique. Il y a d'autres religieux qui avaient peut-être compris. Et on a bien conscience que toute la population présente souffre de l'oppression des Romains. Je vais faire une petite parenthèse et je vais vous parler, je ne sais pas si vous connaissez l'expression « d'où tu parles ». Est-ce que vous l'avez déjà entendu « d'où tu parles » ? Zach, peut-être moins, que ça date de mai 68. On disait à l'époque, avant de prendre la parole dans l'assemblée, on te posait la question d'où tu parles. Et l'idée était de savoir qu'est-ce qui allait influencer ton jugement, c'est-à-dire tout ce que tu allais prononcer est forcément impacté par le lieu, l'endroit dans lequel tu vis, la société dans laquelle tu vis, de ton vécu, donc d'où tu parles. Donc mettez-vous à la place de Pierre et Judas, les Romains, l'oppression, la guerre, c'est compliqué. Donc tout leur jugement va être influencé de ce qu'ils vivent et de leurs intérêts individuels. Je ferme la parenthèse. Donc revenons à Judas. Quand on vous cite le nom de Judas, quoi pensez-vous? Il n'y a pas de piège.
Un trésorier.
Un trésorier. Ah, c'est bien, j'avais pas pensé. Trahison à une racine, un trésorier. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Autre chose? Un traître. Trahison, trésorier, traître. Non, mais c'est intéressant.
Cupide.
Cupide. Ah, ça tombe bien. Pour les besoins du propos, j'ai les deux mots. Trahison, cupidité. Ah, j'ai pas entendu prendre avarie. Moi, trésorier, c'est pas être avare, non. Trésorier, c'est je cherche. Mais dans l'extrême, ça peut tendre vers l'avarisme. Et même dans la langue française, pour traiter d'une personne de cupide, on le traite de cupide, de traite, on va le traiter de Judas. J'ai une espèce de Judas. Je vous assure, vous n'êtes pas des inquisiteurs. C'est même écrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Concernant la cupidité, on a dans le livre de Jean, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était endormi. Ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre de parfum de nard, pas très cher, désolé, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur de parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, celui qui allait le trahir, on le répète, on le recite, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Et il disait cela, non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. C'est dit, c'est en fait écrit. On a là une personne, Judas, qui a marché avec Jésus. Je me soucie, c'est le son du zoo qui me perturbe un petit peu. Je vais juste baisser un peu le son. Excusez-moi. On a là donc une personne qui a marché avec Jésus, qui a écouté son enseignement, qui a vu les guérisons, qui a vu les miracles, mais qui finit quand même par trahir son maître. Pourtant, Jésus clarifie les choses à un moment. Pendant, après avoir multiplié les pains, Jésus efforça de dissiper un peu toutes ses illusions, pour leur faire comprendre « je ne suis pas là pour chasser les Romains ». Il veut leur faire comprendre d'une certaine manière qu'il n'est pas là en tant que dans une forme de messianisme terrestre. Et à ce moment-là, pas mal de disciples, et c'est écrit dans le texte, ont éprouvé une grande déception. Et on voit même qu'un certain bon nombre d'eux quittèrent Jésus. Les apôtres, lui, demeurèrent fidèles, ne comprenant certainement pas où ils allaient, où Jésus voulait les emmener, mais ils gardaient intact leur confiance en lui. Parce qu'à ce moment-là, Judas aurait pu partir. Parce que Jésus, on ne pouvait pas être plus clair à ce moment. Judas, comme Pierre, ne sont pas dans la lettre ni dans l'esprit. Ils sont dans leur siècle, dans leur siècle. Un peu comme nous, on est ici dans notre siècle, à nous. À ce moment-là, ils n'ont pas cherché à comprendre une chose nouvelle. Est-ce que on est plus intelligent qu'eux? Nous, on a l'avantage d'avoir lu le texte. On a l'avantage de connaître la fin. On est comme ce supporter de France 98 qui connaît le résultat du match. Comment ? Ah d'accord, merci. Pour nous, Connaissant la fin de l'histoire, nous sommes prompts quand même à les juger, à les condamner. On parle de Pierre, cet individu spontané qui, au moindre écart, escarpade, sort son épée et il y va. Eux, ils ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Ils vivaient l'instant présent. Dans nos relations au quotidien, ou encore même dans les temps qui courent avec le Covid, où on ne cesse de courir, où on cherche des réponses. Là, tout de suite, on veut des réponses, on veut tout savoir. Nous avons cette tendance-là, du coup, au final, à juger et à condamner facilement nos contemporains. Et cela, parce que nous avons déjà compris que, comme on avait déjà compris, on a compris parce qu'on avait déjà pensé qu'on avait déjà compris d'une certaine manière. Et donc l'autre, quoi qu'il dise, quoi qu'il m'explique, ce qui ne va pas, je l'écoute à peine parce que j'ai déjà fait ma propre interprétation. Donc je suis un peu comme Pierre et Judas à ce moment-là, j'ai déjà ma propre idée. Donc mon frère viendra se plaindre et dire « Ah, mais c'est le même, il se plaint tout le temps. » Je me suis déjà fait mon idée, alors à quoi bon l'écouter ? Au travers de ces deux personnages, on peut voir combien notre condition, ou même notre état d'esprit de l'instant, peut influencer grandement notre vie. Et on le voit un petit peu avec Pierre et Judas, comment l'état présent influencera leur vie. Ou même le rapport, quand on revient à Judas, son rapport qu'il avait avec l'argent, sans ses propres mots, M-A-U-X, était quelque part aussi une porte d'entrée. Pour le diable, pour influencer son comportement et son jugement derrière. Ne limitons pas nos pensées, notre conception de la vie chrétienne par des choses anciennes, par la lettre, celle qui tue, celle qui fabrique des trahisons, par nos soucis de la vie, par notre conception actuelle, séculière des choses de Dieu. Mais laissons la puissance des idées, la puissance de l'esprit contenue dans les textes, dans la lettre, ouvrir notre espérance. Nous permettre de voir plus loin, de voir autrement, de comprendre différemment que comme nous avons déjà compris. Je vous rassure, mon intention n'est pas de réhabiliter Judas et n'est pas non plus de le juger ou le condamner, c'est pas à moi de le faire. Mais j'aimerais que nous nous penchions sur ce que nous dit ce récit, ce que nous dit, ce que vit Judas. C'était un homme de son siècle comme nous, avec ses craintes et ses faiblesses comme nous. Dans le texte, sa cupidité est régulièrement exprimée, comme on le disait. On peut le voir dans le livre de Matthieu. Comme nous, on a des fautes, comme nous, on a des faiblesses, comme nous, on a des moyens de chute facile. On peut chuter facilement, comme nous, comme Judas, comme vous m'avez compris. Le texte nous dit aussi qu'il eut des remords. On peut le lire, « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponte Pilate au gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». On peut faire le choix de nier cette partie, ce propos. Mais si on croit au texte, on a foi en ce texte, parce qu'il est écrit « Il eut des remords ». Certes trop tard, mais il eut des remords. Un peu comme nous quand nous péchions, quand on commet des fautes, parfois on a des remords et parfois pas. Parfois la vie continue, on passe à autre chose et tant mieux. Mais parfois on a des remords. Dans ma vie, je ne laisse pas Dieu m'accompagner avec mes maux, avec mes fautes, avec mes faiblesses. Oui, tout comme Judas, j'ai trahi. J'ai trahi encore et encore le sacrifice de Jésus. Tout comme Judas, je suis pris de remords de temps en temps. Régulièrement même, je dirais. Et j'ai envie de dire, les 30 pièces d'or, je les prends, je les rends, je les prends, je les rends, je les prends, je les rends. Et ma vie, c'est un peu ça, je les prends, je les rends, je les prends. Oh, ça reviendra, oh, c'est bien, ah, bon, reprenez vos pièces d'or. Oh non, j'ai fauté. Je vous avoue, je dois l'admettre que ces mots sont un peu culpabilisateurs, un peu comme disait Jérémie. Que nous sommes des vils personnages. J'ai l'impression que ces mots nous invitent à nous auto-flageller. Oh, je suis mauvais. À une époque, les gens, quand ils fautaient, ils sortaient des martinets, se frappaient. J'ai péché, je suis mauvais, je suis mal. Mais ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'elle nous rappelle la miséricorde de Dieu. Jésus a quand même, il aurait pu écarter Judas dès le début. Il aurait pu, allez c'est fini, toi t'es pas très net, je te mets de côté, le problème est réglé, on passe à autre chose. Mais à une confiance, son amour, de dire, ben, il n'est pas trop tard. Elle est toujours là, ma main, c'est à toi de la saisir. Sa miséricorde, elle est toujours là, c'est à toi de la saisir. Il y a un texte, c'est un chant que je vais vous lire, que j'ai plutôt apprécié, qui dit « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, anneau de Dieu je viens. Tel que je suis avec mes fautes et mes faiblesses, bien vacillant, en proie de doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte en dedans, anneau de Dieu je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer. Sauveur parfait à nos dieux de Dieu. Viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné, sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour. » Quand je relis l'histoire de Judas et de ses différents personnages, ses apôtres, je vois l'amour de Christ et je regarde ma vie et je vois combien j'ai fauté, je vois son amour. Comme je disais tout à l'heure, le nombre de fois où j'ai pris les 30 pièces et que je me suis pris de remords et encore, le nombre de fois où j'ai trahi, il est toujours là à me tendre la main, à m'attendre. Seigneur, préserve-moi de ces jugements rapides. Apprends-moi à comprendre ton amour, à comprendre ton enseignement. Apprends-moi à te suivre. Apprends-moi à ne pas être sous le joug du dogme sur des lois. Apprends-moi à saisir la quintessence de ton sacrifice. Et surtout, merci. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta patience. Je vais vous inviter à prendre un chant en a cappella. Ça tombe bien, j'ai les paroles qui vont s'afficher. Si on prend mon âme, je vais vous inviter à vous lever et qu'on le prenne en cœur. Je reste de nouveau, je suis prêt.
Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois ce mon maître, ô divin. Yeah.